Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les négociations sur la réforme de l'assurance chômage ont débuté aujourd'hui au siège du MEDEF à Paris. C'est un sujet à la fois lourd et sensible parce que cela concerne 2,5 millions de personnes qui sont actuellement indemnisées, parce que le système est en déficit chronique et qu'il est alourdi d'une dette énorme, parce que cette réforme est le deuxième volet des réformes sociales de l'exécutif après la modification par ordonnance du Code du travail, et parce que cette réforme fait partie des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Peut-on étendre et réformer l'assurance chômage? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Sabina Issenan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur associé au CEET, c'est le Centre d'études de l'emploi et du travail, maître de conférence en économie à l'université Rennes 2, chercheur à l'IRIS, et vous êtes membre du collectif des économistes atterris. Et qui vient de nous rejoindre, Bertrand Martineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur général adjoint en charge du développement économique, de la formation et de l'emploi à la région Île-de-France. Vous avez été conseiller social de Nicolas Sarkozy. Vous êtes auteur de « Un autre droit du travail est possible », c'est chez Fayard. Et vous écrivez également pour l'Institut Montaigne. C'est une question très riche que celle de la réforme de l'assurance chômage, avec plusieurs problèmes et plusieurs objectifs. On va tenter de les prendre un par un. D'abord, les objectifs assignés par le président de la République, qui correspondent à ses objectifs, à ses promesses de campagne. Étendre l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires, est-ce que c'est une bonne idée, Sabina Issenan?
Alors, l'étendre sur ces deux populations, on est face à deux populations différentes, et même au sein de ces populations, notamment au sein des indépendants, on a des populations, on a une population très hétérogène. D'un côté, on va avoir des indépendants avec des professions libérales, avec des revenus, des artisans commerçants, avec des revenus plus importants, et de l'autre côté, on va avoir une minorité de ces indépendants, environ 500 000 personnes, qui sont des auto-entrepreneurs. Cette réforme, elle vise également à prendre en charge toute cette nouvelle population qui vit avec des revenus extrêmement faibles. Donc on a des revenus extrêmement hétérogènes chez les indépendants.
Faibles et variables d'ailleurs. Hein,
faibles et extrêmement variables. Donc en moyenne, les auto-entrepreneurs gagnent environ 450 euros par mois. Donc on a une population pour être prise en charge, devra cotiser. La question se pose de quel type de cotisation aura cette population. Et aujourd'hui, même au sein des salariés précaires, des salariés qui font face à des récurrences de chômage, à des récurrences de contrats temporaires, c'est-à-dire qui cumulent des contrats temporaires, des contrats à temps partiel, eh bien pour toute cette population déjà en tant que salariés, ces salariés ont des difficultés à percevoir une indemnisation chômage. Il ne faut pas oublier que moins de 50% des demandeurs d'emploi aujourd'hui en France bénéficient d'une indemnisation chômage, et pour l'assurance d'aide au retour à l'emploi, c'est moins de 40% de la population. Donc, c'est un problème, en effet, dans le contexte actuel. C'est aujourd'hui, comment fait-on pour prendre en charge, par quel type de cotisation, cette nouvelle population? Et puis, la question des démissionnaires. Aujourd'hui, le système d'assurance chômage, en tout cas depuis sa création, avait vocation à prendre en charge les individus lorsqu'ils font face à un risque social qui est celui du chômage, c'est-à-dire des personnes qui sont privées involontairement de leur emploi. Donc aujourd'hui, bien sûr, il existe des motifs légitimes de démission qui permettent de percevoir l'assurance chômage, comme le fait de rejoindre un conjoint qui part dans une autre ville travailler, qui permet de percevoir l'assurance chômage. Mais la question se pose en effet d'une mobilité qui pourrait être une mobilité volontaire.
Une indemnisation de confort, si je peux dire ça comme ça.
Alors, est-ce que c'est une indemnisation de confort? La question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a la volonté de fournir une indemnisation chômage à des personnes qui auraient vocation, en effet, à acquérir une nouvelle formation professionnelle, à changer d'emploi? Aujourd'hui, on peut tout à fait se poser la question légitimement. C'est une bonne chose de l'ouvrir, en effet, aux démissionnaires. La question, c'est où on trouve ce financement, notamment face à la réduction de la cotisation sociale, qui, bien sûr, va être compensée en partie par cette augmentation de CSG.
On va en parler. Étendre l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires, est-ce que c'est une nécessité dans l'évolution de la pratique travail aujourd'hui, Bertrand Martineau, pardon.
Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois que personne n'était demandeur d'étendre l'assurance chômage aux indépendants. En fait, le vrai sujet, et ça a été dit, sur la question des indépendants, c'est les faux indépendants. C'est-à-dire, c'est effectivement les travailleurs de type Uber, qui vont peut-être d'ailleurs être requalifiés en salariés d'ailleurs. Et puis plus généralement...
Ils sont indépendants, mais ne travaillent sur plateforme. Qu'une seule plateforme,
Les travailleurs sur plateforme. Bon, alors, on n'a aucune estimation INSEE de combien de personnes ça représente. On a, en recoupant un certain nombre de statistiques, on pourrait se dire que c'est 100, 150 000 personnes à peu près. Alors, c'est vrai que c'est des chiffres en forte croissance, mais enfin, ça reste une population relativement faible en proportion. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas traiter le sujet. Et alors, le problème, c'est que pour traiter ce vrai sujet... Le gouvernement, en fait, enfin le candidat Macron, d'ailleurs, s'est mis un peu dans un corner en parlant des indépendants en général, donc les huissiers de justice, les chirurgiens dentistes, les architectes, etc., qui est évidemment pas le
qui
sujet.
Qui n'ont pas les mêmes besoins, bon, effectivement.
Qui n'ont pas les mêmes besoins et qui sont absolument pas preneurs de payer une cotisation d'assurance chômage qu'aujourd'hui ils ne payent pas pour bénéficier de quoi? De, je sais pas, 500 euros par mois, 700 euros par mois. De toute façon, on va pas indemniser ces personnes à hauteur de plusieurs milliers d'euros par mois. Donc le gouvernement essaye de s'en sortir, et je pense qu'il va s'en sortir, d'ailleurs ça a déjà été dit, en ayant des conditions pour ces personnes, ces indépendants, extrêmement restrictives. Donc en gros, il faudrait faire faillite, il faudrait que votre cabinet de chirurgien dentiste fasse faillite, et puis dans ce cas-là, peut-être vous auriez droit à une aumône, quelque chose comme ça. Donc on va trouver une solution, parce que c'est des sujets qui peuvent coûter rapidement quelques milliards quand même.
Oui, c'est une
plaisanterie.
Est-ce que le gouvernement, pour tenir sa promesse, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin, Sabina Issanam ?
En tout cas, ce qu'on entend à l'heure actuelle, en effet, dans les couloirs, c'est que cette indemnisation, elle sera en effet au rabais, peut-être une indemnisation forfaitaire, mais ça remet en cause notre système d'assurance sociale et notre système d'assurance chômage aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est comment fait-on pour cette population ? Est-ce que l'objectif, c'est de leur offrir les mêmes droit, c'est-à-dire de véritablement créer une assurance chômage universelle, en effet, qui prenne en charge tous ces individus, où l'idée, c'est essentiellement de faire une mesure qui peut paraître un peu clientéliste, qui permet de respecter en effet ses engagements de campagne, mais qui de l'autre côté demandera néanmoins de savoir comment on finance ce type d'indemnisation. Et le problème de chaque réforme, c'est qu'à partir du moment où on le met pour une population, il se peut que cela...
Égalité de traitement devant la loi.
Tout à fait.
Alors,
tout à fait.
Alors, est-ce que ça risque pas mécaniquement de limiter l'indemnisation de ceux qui bénéficient de l'indemnisation chômage actuellement ? C'est une des craintes des syndicats, ils l'ont dit en arrivant aux négociations au siège du MEDEF aujourd'hui.
Quand on regarde les déclarations aussi bien du candidat Macron que du gouvernement depuis qu'il est élu, il n'y a pas, à ma connaissance, la volonté de diminuer les droits, que ce soit les conditions d'éligibilité, que ce soit le niveau d'indemnisation, et même, sauf peut-être à la marge, la durée maximale des indemnisation. Donc a priori, ça ne se ferait pas sur le dos, entre guillemets,
des
actuels bénéficiaires. D'où la question du financement, effectivement, puisque l'Institut Montaigne avait chiffré pendant la campagne l'ouverture à tous les indépendants et aux démissionnaires, tous les 5 ans, et selon des hypothèses même assez raisonnables, cette petite histoire peut rapidement coûter 2 à 3 milliards d'euros. Donc soit on laisse creuser le déficit insupportable de l'UNEDIC...
La dette de l'UNEDIC, c'est 30 milliards d'euros.
Exactement, et puis un déficit de 3,5 et 4 milliards par an. Mais soit on laisse effectivement le déficit de l'UNEDIC complètement dérivé, soit on trouve des recettes supplémentaires, et des recettes supplémentaires, ça veut dire des cotisations supplémentaires, ou des impôts, ou je ne sais quoi. Et là, je ne suis pas sûr, politiquement, ça passe très bien. Donc la solution va probablement être de faire une ouverture petit bras, et donc d'avoir des conditions d'éligibilité pour ces nouveaux bénéficiaires extrêmement durs, de manière à ce que ça coûte que quelques centaines de millions d'euros au maximum. Et je pense que c'est faisable techniquement, on va y arriver.
Alors, question du financement,
concerne la durée d'indemnisation. Il faut rappeler que donc en 2017, il y a déjà eu une nouvelle convention d'assurance chômage qui a réduit la durée d'indemnisation, notamment pour les seniors, et qui l'a réduite de manière importante, puisque l'âge auquel aujourd'hui les seniors ont le droit à une indemnisation plus importante que le reste des actifs est dorénavant de 53 ans. Et donc, jusqu'à 53 ans, vous avez le droit au maximum, bien sûr, au maximum, si vous avez cotisé, 24 mois. De 53 à 55 ans, vous avez le droit à 30 mois. Et au-dessus de 55 ans, vous avez le droit, ensuite, à 36 mois.
C'est pour accompagner le départ en retraite.
Alors, c'est pour accompagner le départ en retraite, mais ça fait face à un constat qui est que, eh bien, les seniors ont, en moyenne, une ancienneté au chômage quasiment deux fois plus importante que le reste des actifs. Et donc, la question qui se pose, c'est aujourd'hui, comment fait-on pour ces chômeurs de longue durée? Moi, je ne suis pas complètement rassurée en ce qui concerne la durée d'indemnisation.
Ouais, vous êtes un petit peu inquiète,
en ce qui concerne la durée d'indemnisation notamment.
Ouais. Donc la question du financement, on a commencé à en parler, le déficit et la dette chronique, comment dans ces conditions étendre l'indemnisation, ça sera une réforme au rabais forcément, Sabine Essendon?
Alors elle se fera avec des contreparties. Alors le déficit, il est certes d'environ 4 milliards d'euros, il diminue néanmoins. Toute la question qui se pose, c'est comment fait-on pour avoir ces recettes, et notamment la question qui se pose, c'est cette cotisation d'assurance chômage qui a en effet diminuer sous prétexte que le problème de l'emploi serait encore un problème, tout à fait, mais ça suppose encore que le problème de l'emploi, c'est un problème de coût du travail, donc là on rentre dans un autre débat, et se pose la question donc de remettre en place cette cotisation, de l'augmenter, et surtout cette réforme est dans ce débat, on oublie principalement le problème majeur qui est le problème de la création d'emplois, qui est le problème macroéconomique qui fait que aujourd'hui on ne crée pas assez d'emplois en France, on a un problème d'investissement et on a un problème de création d'emplois afin d'augmenter ses recettes pour avoir davantage de cotisations et pour avoir moins de chômeurs également. Puisque certes on a une légère diminution des chômeurs de catégorie A, mais on a néanmoins une augmentation très importante des catégories B et C, c'est-à-dire tous ces demandeurs d'emploi
qui ont une activité partielle.
Qui ont une activité partielle, qui sont entre chômage et emploi. Et aujourd'hui, ça représente 2 millions d'individus. Et il faut savoir que depuis les années 90, ces catégories B et C, elles ont été multipliées par 3. Et depuis la crise économique de 2008, ces demandeurs d'emploi de catégorie B et C ont quasiment doublé. Donc on fait face à un phénomène extrêmement important de personnes qui continuent à s'inscrire en tant que demandeurs d'emploi, qui occupent des petits emplois et qui aimeraient occuper un emploi pérenne.
Alors, justement, un des autres objectifs de cette réforme, ce qui a été assigné par l'exécutif, c'est la lutte contre la précarité. On a parlé pendant longtemps d'un bonus-malus pour les entreprises en fonction de leur usage des CDD. C'est une idée de campagne qui a été largement décriée par le patronat, puis on en entend un petit peu moins parler en ce moment, Bertrand Martineau. Ce serait quoi la solution pour éviter ce recours excessif à la précarité?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Contrairement au sujet de l'ouverture aux indépendants, modulo la question des travailleurs sur plateforme qu'il va bien falloir traiter un jour, mais et plus généralement d'ailleurs leur protection sociale, pas uniquement l'assurance chômage. Donc là, on est sur un vrai sujet, c'est-à-dire comment on lutte contre ce qu'on peut appeler la permittence, c'est-à-dire la permanence dans l'intermittence. Bon. Et là, vous avez deux sujets. Alors, il y en a un qui est ouvert de manière évidente par le gouvernement, c'est la question d'éventuellement de faire payer aux entreprises une partie des surcoûts qu'elles génèrent à l'assurance chômage quand elles abusent finalement de ce mécanisme des CDD ou des CDD, des CDI facilement rompus pendant une période d'essai. Il y a 35% des CDI qui sont rompus avant d'un an. Avant un an, donc il n'y a pas d'un côté le monde du CDD hyper précaire et de l'autre c'est le monde du CDI hyper stable. C'est pas tout à fait ça. Bon, alors donc ça. Donc,
dans les nouveaux emplois, je le précise, il y a 70% de CDD et sur les 30%, il y en a encore un tiers qui est rompu au bout d'un an. C'est ça que vous
exactement. Exactement. Donc 35%. Et alors ça c'est un point important. Je rappelle que je vais donner un chiffre intéressant, 80% des CDD de moins d'un mois, donc des CDD courts, sont en fait des CDD qui sont effectués par des salariés que l'entreprise connaît déjà. C'est-à-dire d'anciens salariés de l'entreprise. Et donc, en gros, il y a un certain nombre d'entreprises, il faut le dire, qui utilisent l'assurance chômage pour, finalement, comme des congés à des salariés entre deux CDD. C'est-à-dire que tu finis ton CDD, tu pars en congé 15 jours, 3 semaines, payé par l'assurance chômage, et ensuite
avec
tu reviens
avec une prime de précarité.
Avec une prime de précarité. Et c'est là qu'intervient le deuxième sujet. C'est là qu'intervient le deuxième sujet, c'est qu'il y a un problème du côté des incitations sur les entreprises, mais c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de chômeurs qui, évidemment, optimisent le système et utilisent l'assurance chômage entre deux CDD, entre deux intérims, etc. Ce ne sont pas des chômeurs de longue durée, parce que les chômeurs de longue durée sont très majoritairement des pauvres et qui n'ont absolument pas intérêt à rester au chômage, mais c'est vrai aussi qu'il y a des abus des deux côtés, et j'hésite pas à parler d'une certaine collusion, parfois, entre les salariés et leurs employeurs pour optimiser le système. Alors, il y a le cas extrême des intermittents du spectacle, où alors là, évidemment, le système est bâti pour ça, et où effectivement, il y a une collusion entre la CGT et les éléments les plus réactionnaires du patronat, qui sont parfaitement d'accord pour pérenniser le système aux frais des autres salariés et d'autres entreprises de ce pays.
Sabine Essendon, vous piaffez, vous avez envie de rebondir
là-dessus. Alors, tout à fait. Alors, je vais juste rappeler sur les CDD d'usage. En effet, il y a eu une augmentation de la part des contrats temporaires dans les embauches, mais en stock aujourd'hui, la norme, c'est encore le CDI, même si, en effet, comme l'a très bien rappelé mon collègue ici, que le CDI ne protège pas forcément et n'est pas forcément gage de stabilité, puisqu'en effet, un tiers des CDI peuvent être rompus avant la fin de la première année, c'est la moitié pour les jeunes de moins de 25 ans. Cependant, donc, on a en effet une augmentation et une diminution de la durée des contrats et des contrats temporaires, notamment dans les embauches. Et dans ces contrats temporaires, notamment dans ces CDD, eh bien, on a une grande partie, la moitié de CDD d'usage. Donc c'est principalement de CDD d'usage. Dans les CDD d'usage, on peut les renouveler à l'infini. Donc l'employeur peut les renouveler à l'infini. Il ne paye pas de prime de précarité. Et il peut les renouveler sur la même personne, sur le même poste. Et donc, la question
On va juste rappeler la règle habituelle. La règle, c'est que quand on renouvelle une troisième fois un CDD, ça vaut un CDI. En principe, c'est ça, la loi. Hein, mais elle est de moins en moins impliquée.
Elle est de moins en moins impliquée parce que la loi le permet. Mmh. Parce que les CDD d'usage peuvent être utilisés dans un certain nombre de secteurs de plus en plus importants. Et demain, avec le nouveau cadre du travail, eh bien, on va avoir des branches professionnelles qui vont pouvoir définir de nouvelles règles pour les CDD en termes de législation. Et donc, lorsqu'on facilite notamment les règles de protection de l'emploi, alors qu'on sait qu'il n'y a aucune validation empirique entre le niveau de la protection de l'emploi et le niveau du chômage, eh bien, lorsqu'on modifie ces règles afin de diminuer les droits des travailleurs et la protection des travailleurs, eh bien, ça accentue la précarité, ça accentue les récurrences de chômage et ça accentue en effet les périodes d'emploi-chômage. Et en effet, cette discontinuité de l'emploi augmente. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que cette discontinuité de l'emploi, en effet, elle est du fait des employeurs ou elle est du fait des salariés? Et est-ce que ces salariés précaires, qui sont à la fois des salariés précaires et des demandeurs d'emploi aussi, est-ce qu'ils bénéficient de cette indemnisation durant ces périodes entre deux types d'activités réduites? C'est ce qu'on nomme l'activité réduite, le cumul entre l'emploi et le chômage. Avec l'assurance chômage.
D'accord. Et alors vous êtes.
Je vais compléter.
Ouais, vous compléterez.
Par la suite.
On aura peut-être plus beaucoup de temps, mais oui. Il faut qu'on avance un petit peu. Il y a une autre question qui est dans cette négociation. C'est la question du rôle de l'État et du paritarisme. Le gouvernement souhaite y mettre fin ou l'encadrer mieux. Les partenaires sociaux fonctionnent comme ça depuis une quarantaine d'années au moins. Comment est-ce que ça peut se passer, Bertrand Martineau?
Un scénario d'étatisation totale, c'est-à-dire l'assurance chômage est intégrée dans le budget de l'État, ne paraît pas être la ligne privilégiée par le gouvernement. Et pour une raison assez sage, quel est l'intérêt de l'État finalement de se voir refourguer un système déficitaire qui nécessite peut-être des hausses de prélèvements obligatoires ou des choses comme ça, ou de prendre des décisions douloureuses un jour sur le niveau des indemnisations et sur la durée maximale d'indemnisation qui est quand même parmi les plus élevés du monde, je vois pas très bien l'intérêt politique pour l'État de récupérer ce bébé.
Donc ça veut dire qu'il y aurait des décisions très impopulaires à prendre et ce serait pas très
partenaires sociaux ces dernières années ont parfois pris des décisions relativement courageuses, en tout cas plus courageuses que ce que fait traditionnellement l'État sur le champ social. On a rarement vu l'État diminuer des allocations quand même, alors que les partenaires sociaux ont parfois fait. Cela étant, les partenaires sociaux n'arrivent pas profondément à réformer le système, et notamment sur la question des contrats courts, aussi bien du côté des abus, entre guillemets, de certains salariés, et puis du côté des employeurs. Et donc l'État va vouloir reprendre la main. Alors comment reprendre la main? C'est un peu ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire qu'il laisse les salariés, les partenaires sociaux négocier, mais sous contrôle, avec éventuellement une loi qui encadrerait beaucoup plus qu'aujourd'hui le champ de négociation des partenaires sociaux. Donc c'est peut-être ce scénario. Donc c'est pas un vrai tripartite, c'est pas simplement trois personnes autour de la table, mais c'est des partenaires sociaux qui négocieraient, mais vraiment sous influence et vraiment sous très forte influence.
Alors, je vois que vous me faites de très belles réponses, donc on va passer directement à la dernière question et je vous demander d'être court. Est-ce que finalement on n'a pas eu le volet flexibilité avec la réforme du Code du travail? Est-ce que là, on aura ou est-ce qu'on n'aura pas le volet sécurité, Sabine?
Alors, moi, je doute fort qu'on ait un volet sécurité aujourd'hui, dans le contexte actuel. Je vais juste revenir sur cette question des salariés qui font face à la discontinuité de l'emploi. Les études montrent, toutes les études qualitatives et quantitatives qui ont été menées sur cette population montrent qu'il n'y a pas de comportement optimisateur de cette population. Donc, ces chômeurs intermittents et ces salariés intermittents n'utilisent pas cette assurance chômage pour en bénéficier. Pour la plupart du temps, ils n'ont pas connaissance des méthodes de cumul entre emploi et chômage. Donc on est loin d'un comportement optimisateur. Ce que ces salariés veulent, ce que ces chômeurs veulent, c'est un contrat à durée indéterminée, un contrat qui leur permette de vivre décemment.
Merci Sabina Essenan, merci à vous Bertrand Martineau, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Charles Barré à la documentation et aujourd'hui à la réalisation, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, mais aussi sur vos téléphones avec notamment notre appli Pure Radio à la page émission. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.